France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Jean-François Corti, médecin humanitaire.
Premier épisode, devenir médecin du monde. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Merci de nous accueillir au siège de Médecins du Monde à Saint-Denis, en ce début d'année 2026. Vous présidez cette association humanitaire depuis 2024, mais vous y êtes depuis bien plus longtemps, puisqu'en 2009, déjà, vous aviez pris la tête des opérations en France. Avant Médecins du Monde, vous êtes passé par Médecins sans frontières, entre 2000 et 2008, si bien qu'on peut dire que vous êtes engagé depuis quasi 30 ans dans l'action humanitaire et médico-sociale, en France et à l'international. Depuis une dizaine d'années, vous intervenez aussi beaucoup dans les médias, pour témoigner, pour alerter sur certaines situations. Vous êtes l'auteur de livres et de films, par exemple le documentaire Contrepoison, un combat citoyen, qui a été diffusé sur France Télé en 2024 et dont on reparlera dans un épisode de cette série. La bande dessinée Profession solidaire, chronique de l'accueil, qui est en quelque sorte une partie de votre parcours, publié en 2020. Ou encore, j'en cite encore un, le livre La France qui accueille, paru aux éditions de l'Atelier en 2018. L'humanitaire, c'est toute votre vie professionnelle, même si vous n'avez que 54 ans, mais vous êtes médecin aussi, et peut-être même avant tout, enfin ça c'est ce qu'on verra au fil de ces entretiens. À l'heure en tout cas où nous enregistrons ces émissions, vous exercez sous forme de 3-4 gardes de nuit par mois, m'avez-vous dit, dans une clinique de soins de suite et de rééducation à Paris. Si bien que j'ai envie de vous demander d'abord pour commencer, qu'est-ce qui a été premier chez vous, l'humanitaire ou la médecine ?
Définitivement, l'idée de s'engager dans l'action, avec l'idée que l'action serait un moment où je pourrais vivre une vie pleine, sociale, totale, avec une pratique, notamment la médecine, et la possibilité, au travers de ce passeport d'activité, d'être dans la réflexion, la pensée critique, pour défendre des valeurs, une certaine idée du vivre ensemble, une certaine idée de l'altérité, du faire société. Et donc, quand j'ai eu 15 ans, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé, je réfléchissais comme beaucoup d'ados à mon avenir professionnel. J'étais, on le verra, dans une époque où je ne savais pas trop, entre guillemets, enfin, je savais où j'étais, dans le sud de la France, mais j'avais vécu et j'étais né au Maroc. Et pendant 8 ans, mes premières années, c'était le sud marocain, pour ensuite rejoindre les Pyrénées françaises. Et donc, j'étais dans une période de ma vie où, adolescent, je cherchais un sens à une activité professionnelle. Et je suis tombé sur une interview de Ronnie Broman à la télé.
Qui était président de Médecins sans frontières.
Et je me suis dit, en fait, c'est avec ces gens-là que je veux travailler. Et c'est vrai que je baignais dans un environnement, hein, et la question de l'endoculturation et l'acculturation est importante dans chaque histoire et dans la mienne, évidemment, au travers de ma vie au Maroc, de l'existence de mes parents, de leur profession. Mon père était dentiste, ma mère était professeure de sciences naturelles, donc je baignais dans un environnement aussi où la question de la pratique du soin, du rapport à la vie, quand je parle de la vie, c'est aussi la nature, la faune, la flore. D'ailleurs, ça renverra aussi à une question et une discussion qu'on aura sur l'approche One Health, ce fameux sujet qu'on développera autour de la question de la santé environnementale et notamment des cancers pédiatriques et du film Contrepoison. Et donc voilà, je suis dans une période à 15 ans où je baigne dans un environnement, on va dire, où la question du soin est quasi quotidienne, où la question de l'histoire récente et plus lointaine de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de l'exil au Maroc, ces 3 générations du côté de ma mère qui ont vécu au Maroc, 2 générations du côté de mon père, tout ça se mélange, et puis une aspiration aussi pour le monde des idées, le fait de suggérer que mes idées valent autant que les autres et l'envie de les défendre dans le champ social notamment, fait que je me dis la médecine c'est un bon passeport pour être dans la relation à l'autre, avoir une possibilité de faire des choses concrètes qui m'amèneront à voyager, mais à voyager utile. J'avais l'idée du voyage qui était assez claire déjà. Je me voyais pas passer dans des pays pour passer. J'avais l'idée de m'ancrer sur des durées données pour pouvoir vivre pleinement avec les gens des pays dans lesquels je pourrais me rendre. Et la médecine, pour moi, était un vecteur d'intégration, de rencontres, de liens qui était important. Et donc voilà, la pratique médicale, ça reste aujourd'hui une activité pour moi qui est mineure dans l'exercice clinique, mais c'est un support majeur de légitimation pour moi de mes prises de parole au travers de ce que je peux faire dans l'humanitaire, avec Médecins du Monde, entre autres. C'est vraiment l'ancrage de terrain, la pratique médicale, l'observation que nous donnent ces situations, on va dire, cliniques, qui ensuite me permet d'objectiver, de rationaliser des points de vue beaucoup plus globaux, plus politiques, sur la question des inégalités, sur la question des injustices. Voilà, donc la médecine, ça a été pour moi un passeport d'engagement, essentiellement.
Vous avez d'ailleurs commencé et terminé par le même mot, Jean-François Corti, le mot d'engagement. Au départ, vous avez dit c'était m'engager dans l'action, et là vous venez de dire bah, effectivement c'est un passeport pour l'engagement. Est-ce que ça veut dire aussi que si on se replonge dans ces années où vous avez 15 ans, donc on est en 1986, vous êtes aussi porté par une forme d'indignation face au monde, ou une colère, un refus des injustices, peut-être même aussi une certaine envie d'héroïsme. Quand on écoute Ronnie Broman parler dans ces années-là, il y a le voyage, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi soigner le monde, réparer le monde. Donc, est-ce qu'il y a une façon de faire la politique autrement, déjà ?
Je crois, oui, que déjà, je sens qu'au travers de cette action humanitaire, je vais pouvoir non seulement voyager, me confronter au monde, profiter de la vie aussi, hein, et c'est, je pense que c'est important, et on y reviendra, sur la question du sens de l'engagement. Moi, je suis pas du tout du côté sacrificiel ou du don de soi absolu, dans une approche mystique ou autre. Évidemment, quand on a 15 ans, on n'a pas la même maturité politique que quand on est plus âgé. Et j'ai appris, dans différentes expériences de terrain ou autres, à faire évoluer ma pensée politique par des lectures, par des rencontres. Et donc, j'ai pas la même maturité politique quand j'ai 15 ans que quand j'en ai 40. C'est assez classique. Mais j'ai déjà le sentiment qu'au travers de l'action humanitaire, ce sera la possibilité de rentrer dans un combat social, de lutte contre les inégalités, donc de rentrer dans le champ du politique, sans forcément être dans une dimension partisane. Je n'avais pas forcément une aspiration à être... à faire de la politique dans un parti politique. Voilà. Même si je respecte les acteurs qui sont dans ces champs-là. J'étais pas non plus dans une aspiration, alors à 15 ans, vous me direz, c'est assez exceptionnel, d'être dans une aspiration d'engagement dans un syndicat. Ça peut arriver au travers d'un exercice professionnel notamment. Mais j'avais cette idée, voilà, qu'au travers de l'action humanitaire s'ouvrait le champ des possibles en termes de rencontres de différentes sociétés, de pouvoir vivre totalement et me faire plaisir, et en même temps associer à ce plaisir de l'existence, à cette jouissance de l'existence, la possibilité d'être dans de l'utile et d'être dans de l'engagement de nature politique, mais non partisane. Et j'évoque tout ça parce qu'évidemment, quand je parle de ça, je préfigure aussi tous les principes qui vont guider l'action humanitaire contemporaine et qui font que je vais me retrouver à l'aise pour travailler dans des organisations comme MSF ou Médecins du Monde. Dans ces organisations, on y reviendra, qui sont des expressions d'une action humanitaire contemporaine moderne, née dans les années 70, et qui apporte une composante nouvelle aux acteurs traditionnels de l'aide du XXe siècle. Et cette approche nouvelle, c'est d'associer à l'action le témoignage. Et donc, d'être dans une dimension où on va défendre les droits fondamentaux, défendre les minorités, travailler sur les injustices, sans être dans un parti politique, mais en fondant son engagement, cet engagement, sur la base d'une expérience de terrain, en ayant en tête qu'on va être dans des sujets qui sont éminemment politiques, sans être dans un cadre partisan. Quand on parle du droit international humanitaire et le fait qu'il faille le respecter, lorsqu'on parle du droit des femmes à pouvoir choisir ce qui est bon pour elle ou pas en termes de contraception, d'avortement ou autre, quand on défend l'accès aux droits et aux soins de populations et dans une dimension universaliste, de fait, on est dans des champs d'action qui relèvent de politique publique, nationale ou transnationale. Et donc, on se met dans une situation d'être confronté à des acteurs politiques. Voilà. Moi, j'étais dans cette approche-là. Et puis, je suis issu d'une famille qui n'est pas forcément militante en tant que telle. J'avais pas des parents qui militaient dans des partis politiques, mais j'avais des parents qui, au travers de leur activité professionnelle, nous sensibiliser au vivant, nous sensibiliser à l'écoute des autres, nous raconter leurs propres histoires professionnelles qui nous inspiraient quand on était enfant. Et je m'explique, mon père qui était dentiste, travaillait donc dans le sud de la France, il était rentré 2 ans avant ma mère, moi et mon frère et ma sœur, en France, pour ouvrir un cabinet, préparer l'accueil de la famille qui arriverait ensuite. On était les derniers de 3 générations à être restés au Maroc, à Agadir notamment. Pour plein de raisons, mes parents sont rentrés en France. D'abord parce qu'ils voulaient rester auprès de leurs enfants. Ils savaient qu'à un moment donné, on allait devoir, entre guillemets, partir, faire des études supérieures. Et donc, ils ne voulaient pas nous laisser partir en dehors du Maroc. Ça chauffait un petit peu aussi dans le sud marocain avec la guerre du Polisario. Ma mère, qui était enseignante, avait certains de ses collègues qui avaient été enlevés dans le sud marocain. Donc voilà, il y avait un petit mélange de différentes choses qui font que mes parents sont rentrés en France. Ils avaient vécu 40 ans au Maroc, ils étaient nés à Casablanca, donc je crois que ça a été un traumatisme pour eux, même si ça n'a pas été le traumatisme des pieds noirs, d'Algérie, qui sont partis dans un contexte de guerre et de violence extrême. Moi, mes parents ne sont pas partis dans un contexte de guerre et de violence extrême. La fin du protectorat marocain s'est passé, on va dire, dans de bonnes conditions. Il y a eu des atrocités au Maroc, de l'époque coloniale et on va dire, de pacification, si je reprends les termes de l'administration française du 19e et 20e siècle. Mais on n'a pas été les pieds noirs du Maroc dans les années 70-80, lorsqu'on est rentré en France comme ma famille, dans une situation de violence ultime. Sachant qu'il y a d'ailleurs plein de Français qui sont restés au Maroc dans cette période-là. Mais en revanche, quand même, pour mes parents qui ont vécu 40 ans au Maroc, qui sont nés à Casa, qui avaient toute leur histoire, leur attache, ça a été difficile.
Alors, c'était comme un exil.
Oui, c'était un exil. Et puis on est arrivé sans rien. On n'avait rien, en fait. Mais mes parents avaient une profession qui leur a permis de pouvoir vivre correctement, voilà, petite bourgeoisie de province, mais sans rien de plus, quoi. Alors, pourquoi j'évoquais ça ? Parce que, pour revenir à l'environnement dans lequel j'ai baigné, un environnement qui n'était pas militant en tant que tel, mais un environnement où mon père, par exemple, qui était dentiste, donc nous racontait régulièrement les histoires de ses patients. Il nous racontait que telle ou telle personne, il n'avait plus de dents et puis qu'il n'avait pas les moyens de se payer des soins adaptés. On était bercés d'une certaine manière par des histoires de vie qui associaient à la fois des critères médicaux, mais des déterminants sociaux aussi, de précarité, entre autres. Et puis, dans le même temps, ma mère nous sensibilisait aussi aux questions en lien avec sa passion qui était les sciences naturelles. Et puis, étant gamin, je lisais pas trop quand j'étais petit, je me suis rattrapé depuis, mais j'étais souvent dans la nature, je suis un fan de pêche à la mouche, j'étais très souvent dans cette nature, et c'est important ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je retourne chez ma mère dans le sud-ouest, je ne reconnais pas vraiment ma maison, mon environnement. Il y a 10 fois moins d'oiseaux. Il y a plein de petites villes, là où j'ai grandi, qui sont en train de disparaître. Et tous les magasins sont en train de fermer. Ça fait depuis 20 ans. Avec des gros centres commerciaux qui se construisent en bordure de ces villes dont les centres sont en train de disparaître. Et donc ce rapport à la nature que j'avais quand j'étais gamin est important parce que c'est dans cet environnement-là que je me suis développé, que j'ai développé certaines sensibilités et qui me font prendre aussi la mesure aujourd'hui du drame humain qu'on est en train de vivre avec le péril climatique, avec le péril de l'atteinte au, on va dire, à la biodiversité, qu'il est facile de constater, y compris chez nous, en lien avec les enjeux, notamment du péril climatique, du réchauffement climatique, mais aussi de l'agriculture intensive, par exemple, de l'utilisation des pesticides qui non seulement nous tuent, mais aussi altèrent et détruisent une bonne partie de la faune et de la flore. C'est pour ça que je parlais des oiseaux. On sait que la population des oiseaux, notamment en Europe, c'est des millions d'espèces de cas d'oiseaux qui ont disparu, notamment du fait de l'agriculture intensive. Donc, moi, je suis baigné dans cet environnement-là. J'ai une enfance heureuse. J'ai des parents qui me sensibilisent aux questions écologiques, sans forcément être dans une dynamique de partisane, hein, on va dire de parti. On est sensibilisé aux questions d'inégalité, de précarité aussi, qu'on ne voit pas. Moi, si mon père me raconte pas que des gens ont des latrines dans le jardin, on est dans les années 80 encore, hein, que ils ne peuvent pas forcément manger tous les jours, qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, notamment pour répondre à des besoins élémentaires comme avoir une dentition correcte pour vivre normalement. Si on me raconte pas ça, je le sais pas. Et donc, on le voit pas forcément, la question de la précarité en France. Alors aujourd'hui, on a des indicateurs. Et puis, malheureusement, une précarité qui s'affiche davantage. Mais voilà, c'est pas forcément évident de le voir dans votre environnement direct. Voilà, donc je baigne dans cet environnement-là. Et puis, évidemment, alors, mes parents sont pas plus pratiquants que ça, mais il y a cette histoire, ces histoires de famille aussi qui me portent par rapport à cette idée que je me fais de l'engagement et de l'exigence démocratique et de la liberté et du libre arbitre qui me guide et qui font qu'aujourd'hui je suis dans une organisation militante qui défend les droits fondamentaux, qui s'oppose à l'émergence des populismes illibéraux et qui, voilà, qui est portée aujourd'hui par cette exigence de défense des droits fondamentaux, dont la liberté. Ma mère est de culture huguenote, protestante. Voilà, c'est issu d'une famille suisse. Voilà, disons que c'est des calvinistes plutôt, qui sont passés par Mazamé. Y a une précarité aussi importante et certains sont partis tenter leur chance au Maroc. Du côté de mon père, c'est un catholicisme non actif. Il n'est pas pratiquant. Il nous raconte pas forcément. Ne berce pas forcément d'histoire autour du catholicisme. Il n'est pas pour, il n'est pas contre. Juste, il n'est pas pratiquant. Il est plutôt ouvert à la lecture, à la philosophie, à l'engagement social au travers de son travail. Et puis, je pense qu'il m'en voudra pas. Hein. Il est mort depuis longtemps aussi, mais...
Il est mort quand vous aviez 25 ans.
Voilà, il est mort assez jeune, d'un cancer à 56 ans. Et je pense que ça a aussi pas mal structuré des éléments de compréhension de mes engagements, comme une de mes tantes aussi qui est morte d'un cancer à 36 ans. Donc le cancer, c'est une histoire chez moi, hein. Et ça a fait beaucoup de mal à nos familles, et donc on y reviendra. C'est un sujet qui reste éminemment d'actualité avec l'explosion des nombres de cas et l'épidémie de cancer chez nous notamment, mais dans le reste du monde, avec énormément de facteurs environnementaux toxiques qui sont en cause. Donc on reviendra sur cette question d'engagement des cancers, mais je baigne dans un environnement où voilà, mon père est plutôt porté par les idées, la réflexion, l'engagement, il est assez attiré par notamment le Grand Orient, donc le loge maçonnique du coin. Et d'ailleurs, il nous fait partager les réflexions qu'il a eues dans les différentes séances. Et en même temps, il associe ça à son quotidien et à sa vie professionnelle. Tout ça pour dire que je baigne dans cet environnement où je vais de temps en temps au culte. Ma mère m'y amène. Voilà, j'ai fait ma communion protestante huguenote, mais je suis pas plus pratiquant que ça. Et en plus, je suis dans une école catholique dans le sud de la France, de la 6e à la terminale, où non seulement je suis un enseignement classique, mais je suis sensibilisé aussi aux questions du discours, de la culture, notamment judéo-chrétienne et catholique. Et donc, je peux percevoir, voilà, différents sens des croyances et des engagements mystiques aussi. Moi, je me dissocie de ça. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est la notion de solidarité vis-à-vis de l'autre. Comment certaines religions créer les conditions pour qu'il y ait un respect entre les individus. Je trouve que ça accroche quelque chose en moi qui fait que l'idée de solidarité, je vais la poursuivre, mais pas forcément ancrée dans une croyance mystique de quelque chose, pas pour faire référence à un dieu ou autre chose, mais parce que je pense que c'est un élément important dans l'existence.
C'est ça qui vous pousse, Jean-François Corti, à faire, en plus des études de médecine dans lesquelles vous vous lancez, de faire aussi un cursus de recherche en anthropologie et en sciences politiques ?
Absolument. Enfin, quand j'ai décidé de m'engager dans l'action humanitaire, rapidement, j'étais dans le monde des idées aussi. La médecine m'a apporté beaucoup de choses en termes de pratiques, vous l'aurez compris, de mise en situation clinique, d'histoire à vivre voilà, très forte. On se pose des questions sur la vie, la mort, le soin, jusqu'où on va, comment. Mais j'avais besoin aussi, dans cette perspective d'engagement humanitaire, d'avoir des clés de lecture sur les environnements sociaux dans lesquels j'allais intervenir, sur les enjeux politiques. Et en fait, moi, j'ai été intéressé rapidement par ce que m'apportaient les sciences dures au travers de la médecine et ce que pouvaient apporter les sciences sociales, et notamment l'anthropologie, pour avoir une meilleure lecture du jeu des acteurs sociaux avec lesquels j'allais devoir composer. Étant entendu que, rapidement, enfin... Moi, je suis sorti, c'est pour ça que j'évoquais la question mystique. Je ne suis pas du tout dans l'engagement humanitaire avec une imprégnation mystico-religieuse ou une référence à la Bible ou à une croyance mystique. Je crois à l'altérité, à la solidarité. Mais je sais que, et notamment au travers des travaux de certains anthropologues, comme Marcel Mauss, qui a travaillé sur le don et le contre-don, on sait que voilà, une action d'altérité, de solidarité, produite par quelqu'un, elle se fait parce que cette personne tire un bénéfice personnel du fait d'être solidaire. Et donc, si vous n'avez pas cette analyse-là, si vous êtes que dans une action où vous pensez que le cœur est nécessaire, bien sûr un peu de professionnalisation autour de, si on fait de la santé, d'avoir des équipes, du matériel pour faire des actions humanitaires pertinentes, si vous n'êtes pas dans l'acceptation que vous allez avoir sur les terrains d'intervention des gens que vous allez aider, qui n'ont pas forcément la même représentation que vous, de la vie, de la mort, du rapport au travail, de l'existence, d'une certaine vision de la cosmogonie, des choses, vous allez vous planter. Et vos actions humanitaires, elles seront que dans un sens, elles seront pas pertinentes, elles vont foirer, vous vous mettrez en difficulté, et vous, en fait, vous ne serez pas en écho à ce qu'attendent les gens que vous voulez aider, parce que vous vous serez mis dans une position où vous êtes acteur du don, sans considérer que votre don prend sens parce que l'autre est capable de l'accepter. Et ça, c'est les sciences sociales qui m'ont aidé à réfléchir à ça. C'est l'anthropologie. Alors, j'ai fait un cursus d'anthropologie centré sur les systèmes africains, parce que, voilà, j'aimais bien la science politique, et je savais que j'allais partir en Afrique pour des missions humanitaires, voilà, et ça me plongeait aussi dans une réflexion où, évidemment, la question de l'action humanitaire allait se retrouver au cœur d'enjeux géopolitiques. Et on sait que les acteurs humanitaires sont des acteurs qui font partie d'une myriade d'acteurs du champ des relations internationales où se jouent des questions d'instrumentalisation, où on voit comment l'aide peut être politisée à plein d'égards. On y reviendra compte tenu de la diversité et de la typologie des acteurs de l'aide qui vont des États en passant par les associations, les ONG, les fondations, les Croix-Rouges et Croissant-Rouge, les Nations Unies. On voit qu'il y a pléthore d'acteurs, que chacun ont des logiques d'intervention, des principes particuliers et qu'il y a des interactions et des instrumentalisations réciproque. Si vous n'êtes pas dans une capacité d'analyse géopolitique, alors on n'est pas obligé de faire Sciences Po pour comprendre la réalité sociale des choses. Et moi, ça m'a aidé. Je voulais avoir ces clés-là pour me projeter dans l'action en me disant j'ai les armes pour faire du terrain, soigner des gens, mais pas faire n'importe quoi, être dans une pensée critique de l'action. Et c'est ça, moi, qui me guide et qui est fondamental, c'est d'être dans une pensée critique de l'action. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire en permanence savoir où on va pour pas faire n'importe quoi.
Comme tout est dans tout, Jean-François Corti, que en tous les cas tout a un sens et que là on voit bien comment vous construisez les choses, qu'à l'époque vous aimiez beaucoup la musique, vos premiers engagements sont des engagements culturels ou musicaux. Vous faites une thèse sur la place de la musique à l'hôpital, vous organisez des concerts à la fac et à l'hôpital, et puis peut-être le premier départ et le premier événement que vous organisez, qui est un premier événement peut-être humanitaire, vous allez nous le dire, c'est en 97-98, où vous avez organisé un festival de musique à Mostar. Mostar, c'est en Bosnie-Herzégovine, on est 3 ans après la fin de la guerre. Vous êtes parti en bus, voyage plutôt épique, mais vous avez amené la musique dans des camps de réfugiés, vous nous racontez ?
Oui, ben, comme beaucoup d'ados, j'écoute beaucoup de musique. Ça me permet, de m'évader. À l'époque, y avait quand même tous ces mouvements de chanteurs engagés, les mouvements Banded, souvenez-vous, les chanteurs pour l'Afrique, We Are the World, tous ces mouvements-là. On voit les artistes qui sont très engagés. Je pense à Peter Gabriel, Sting, tous ces artistes-là qui m'ont fait, notamment Peter Gabriel, qui avait monté un label qui s'appelle Real World, qui m'a fait découvrir l'Afrique à travers la musique. Il enregistrait déjà Papa Wemba et plein d'autres musiciens, Geoffrey Oyema et autres. Et c'est en l'écoutant que déjà je me projetais. Et donc la musique, ça a toujours été important. D'ailleurs, j'ai monté un label aussi avec des amis dont je vous ai pas parlé. Alors, on a produit une trentaine de disques. J'ai toujours perdu du fric, mais c'était pas le sujet. C'était aussi d'accompagner des amis artistes à pouvoir émerger sur notre label qui existe toujours, qui s'appelle Lelia Records. J'aimais bien l'idée de la musique comme et l'art en général comme outil permettant d'accompagner une ascension émotionnelle quand on parle de certaines idées, c'est-à-dire voilà. De pouvoir, grâce à la musique ou à l'art, porter des idées et les rendre encore plus perceptibles et pouvoir davantage toucher un public par rapport à certaines idées qu'on défend. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé retrouver des choses là où on ne les attend pas, aller là où les autres ne vont pas. C'est un slogan aussi de l'action humanitaire. Et mettre la musique là où on ne l'attend pas, aller faire des soins... dans des endroits au fin fond de zones de guerre, on nous attend pas. Travailler sur ces représentations, les bousculer autour de l'image du médecin, autour de l'image de l'artiste. Je revendique le fait que on est dans nos sociétés, on est un peu trop dans des approches professionnelles en silo. Et moi, j'aime bien dire que je suis un médecin généraliste, mais je suis un intermittent de la médecine, mais je suis aussi un intermittent de la science politique, de la géopolitique. Et j'aime bien faire croiser les univers. Et donc, au décours de cette période-là, ces études de médecine, je finis mon internat, mon père meurt, j'ai 25 ans, il en a 56. Il y a plusieurs choses qui se bousculent. Bon, la conviction que je vais faire l'humanitaire, ça a toujours. Je fais la maîtrise de Sciences Po avant de faire le DEA à l'anthropologie politique. Et puis, il y a cette opportunité... Je rencontre des gens qui sont engagés autour d'un festival. Moi, je l'ai pas créé. Je me suis greffé sur. C'est la deuxième année que ce festival se faisait à Mostar, donc en Bosnie-Herzégovine, juste après la fin de la guerre, donc les accords de Dayton en 1995. Et donc, je participe à la deuxième expédition en 97, donc un an après la mort de mon père en 96. Effectivement, on se retrouve avec de nombreux artistes, des jeunes artistes de rue, mais aussi de jeunes musiciens. Je pense au groupe Les Ogres de Barba qui ont vraiment fait une carrière et qui sont toujours très actifs. On traverse l'Italie, on traverse la Croatie, puis on se retrouve dans un environnement où la guerre est encore très présente. Mostar, c'est une ville divisée en deux, qui est encore dans une tension forte entre les différentes communautés. En fait, ça a incarné tout le conflit yougoslave, la Mostar. Tous les acteurs qui se sont entretués étaient concentrés à Mostar avec une ligne de front au milieu. Et nous, on s'est retrouvés là-dedans. Donc, organiser des concerts, des spectacles de rue dans les camps de réfugiés, pour moi, ça a été en fait... au travers de l'art, un premier moyen de vivre une expatriation dans une dynamique, on va dire, humanitaire.
Et vous étiez prêt, Jean-François Corti, ensuite à partir en mission, au pluriel. Ça sera dans un premier temps avec Médecins Sans Frontières, à l'orée des années 2000. Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant. Merci.
Merci.
Et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Jean-François Corti. Réalisation Charlotte Roux, prise de son Raymond Alboui, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.